le Brexit et son traitement dans les médias britanniques. On en parle ce matin dans l'infomédia du jour, Philippe, avec notre invité Alex Taylor, journaliste et auteur de Brexit, l'autopsie d'une illusion aux éditions Lattès.
On a parlé de la presse écrite, mais il y a plein de gens malheureusement qui ne lisent pas de journaux de presse écrite. Vous parliez, vous dites quelques mots de télévision, Alex Taylor, et vous disiez, quand je vais regarder les informations, je préfère regarder Sky News plutôt que la BBC, ce qui va à l'encontre de tout ce qu'on imagine ici, puisque pour nous, vu de France, la référence ultime en matière de télévision, de probité, d'honnêteté et de balance, c'est la BBC.
C'est la BBC, quand même génial. Moi, j'ai travaillé pendant des années à la BBC. Mais pendant le référendum, pourquoi ? Il y a eu un problème de la BBC, c'est parce que la BBC a voulu être un peu neutre. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait un argument, il y avait des pour et des contre.
Mais c'est pas bien ça ?
Si, mais le problème, c'est qu'ils ont fait pas mal de bourdes. C'est-à-dire, je vous donne un petit exemple. Boris Johnson a déposé une gerbe il y a un mois comme Premier ministre pour la cérémonie du souvenir devant le cénotaphe. Il était mal coiffé, il a passé une mauvaise nuit et il a déposé la gerbe à l'envers. Dans son résumé le lendemain, juste un petit truc d'info de 15 secondes, quelqu'un à la BBC a été chercher des images d'archives 4 ans auparavant où il était beaucoup mieux soigné et où il a déposé la gerbe à l'endroit et on a dit voilà des images d'hier, des trucs comme ça. La correspondante de la BBC pendant la campagne électorale a plus ou moins donné le résultat avant le scrutin des votes postaux et donc elle a dit c'est très mauvais pour les travailleurs, elle a dit ça 2 jours avant le scrutin. Donc il y a des petits trucs comme ça qui vont pas. Je vous donne un exemple qui me touche aussi sur le site web de la BBC.
Allez-y.
La définition de la libre circulation des personnes dans l'Union européenne, ça me touche particulièrement, est définie sur le site de la BBC, je crois que ça a été corrigé depuis, mais comme le droit des ressortissants européens de venir s'installer en Grande-Bretagne. Il n'est nullement fait mention du fait que ça marche dans l'autre sens. Et quand vous avez cette presse dont je vous parlais tout à l'heure, qui depuis des années met sur la une, vous regardez le montage des unes du Daily Express, les migrants viennent chez nous, piquent des choses dans notre maison quand on n'est pas là, ça investit cette ambiance du fait que la Grande-Bretagne est victime de l'Europe. Ouais. Et on dit nulle part qu'il y a autant de Britanniques depuis 47 ans maintenant qui sont allés dans l'autre sens comme moi. Donc c'est un peu la BBC la BBC a toujours été challenger.
Et vous parlez aussi des stars de l'info de la BBC.
Le problème de la BBC est aussi parce que leurs grands journalistes
Les figures
comme Andrew Marr, Andrew Neil, c'est évident qui sont plutôt pour le Brexit. Ce que je voulais dire pour le fait d'avoir du pour et du contre, c'est que quand je travaillais, par exemple, moi, dans les années 80, je travaillais dans la principale émission matinale de la BBC.
Ouais.
Et cette émission énervait Mrs. Thatcher, ouais, qui apparemment préparait le bacon pour son mari Dennis et pestait tous les jours. Et la BBC était ressentie comme étant quelque chose qui challengeait forcément le pouvoir.
Et c'est fini ?
Oui.
Mais je croyais justement que Boris Johnson était très 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 en colère contre la BBC.
Oui, mais à tort, à mon avis, parce que...
Attendez, parce que je vais quand même raconter ce qui s'est passé. C'est une info qui nous a été donnée il y a quelques jours par Cyril Lacarrière. Boris Johnson compte réduire les subventions de la BBC et surtout, il souhaite requalifier en délit et non plus en crime passible de 1000 livres d'amende le non-paiement de la redevance. C'est un peu technique, ça veut dire que les gens auraient maintenant plus facilement le droit de ne pas payer leur redevance. À terme, ça pourrait coûter à la BBC un manque à gagner de 240 millions d'euros, évidemment on l'a traduit en euros, sur un budget global de 5 milliards et demi. Pourquoi cette vengeance alors ?
Oui, non mais ça c'est pas du tout une vengeance. Il est beaucoup plus en colère contre les autres chaînes. Ça c'est un truc purement économique. Il est beaucoup plus en colère contre Channel 4 par exemple.
Ah bon, d'accord.
Oui, non, il n'a pas du tout... Justement, parce que la BBC, par beaucoup de gens comme moi qui étaient contre le Brexit, est perçue comme étant quelque chose qui a favorisé le Brexit.
Est-ce que vous estimez que Boris Johnson a manipuler les médias une fois évidemment qu'il a été au pouvoir, quand il faisait de la politique, pas quand il était jeune et qu'il racontait des fake news?
Il n'a pas besoin, c'est ça le truc, il n'a pas besoin parce que la presse, 80%, lisait des journaux comme The Daily Express, The Telegraph, qui sont tous les jours des choses, des fake news sur l'Europe. Et tout ça, j'essaie de l'analyser dans mon livre en fait, c'est parce que cette presse-là, libre, à souhait, ouais, génial, mais cette presse est quand même le résultat de la Seconde Guerre mondiale. Parce que les Britanniques se sentent autorisés à avoir cette presse. Vous imaginez un journal allemand titré comme The Daily Express, titre jour après jour, méfiez-vous des migrants, ils vous piquent des choses dans votre maison quand vous n'êtes pas là.
C'est un des titres ? C'est en Angleterre.
La une du Daily Express, mais parmi tant d'autres, vous cherchez sur Google front pages of the Express, vous allez tomber sur des choses extraordinaires. Vous imaginez ça sur la première page de Bild? C'est parce qu'en fait, les Britanniques, tout remonte à la Seconde Guerre mondiale, parce que le Brexit a été beaucoup couché dans des termes, nous avons sauvé l'Europe, nous allons maintenant reprendre notre indépendance parce qu'ils sont ingrats. Franchement, le Brexit a été beaucoup couché dans du vocabulaire, dans l'imagerie, dans une espèce de fausse nostalgie de la Seconde Guerre mondiale.
Puisque vous parlez de fake news, il faut quand même raconter que il n'y a pas que la presse, pendant toute la campagne pro-Brexit, il y avait un bus qui circulait dans toute l'Angleterre avec ce slogan, nous donnons chaque semaine 350 millions de livres à l'Europe, ça fait 400 millions d'euros, donnons-les plutôt à notre sécurité sociale. Or, ces chiffres étaient totalement faux. Et une fois que le oui pour le Brexit a gagné, ils ont dit, non, c'était faux.
Ah bah le lendemain, même pas genre 4 heures après l'annonce, Nigel Farage était à la télévision en disant, en fait, moi, j'aurais pas dit ça parce que les chiffres sont faux et on va pas les donner. C'est intéressant ça sur le bus parce que le service de santé, ça fait partie de l'identité nationale britannique et ça prouve que les dernières élections et le référendum n'ont pas du tout été gagnés sur l'Europe, si seulement c'était pas du tout un débat sur l'Europe. Les Britanniques ne connaissent pas grand-chose à l'Europe. C'était sur des questions de financement des hôpitaux.
Exactement. C'est une première, à ma connaissance, dans l'univers des chaînes d'infos. On a appris en octobre dernier que l'opérateur Sky allait proposer une version de Sky News garantie sans Brexit, qui est destinée aux téléspectateurs qui ne veulent plus en entendre parler, qui ne veulent plus voir de débat sur le sujet.
Ça a duré deux ou trois semaines.
Hein. Ah, c'est fini, vous l'avez regardé ou pas?
Bon, j'ai un peu regardé, mais comme je suis absolument passionné, parce que moi j'adore le Brexit, je trouve que c'est passionnant. Oui. Moi je me lève le matin en disant qu'est-ce que je vais pouvoir tweeter contre le Brexit ce matin.
C'est pas vrai.
Ça va me manquer. Ouais. Parce que contrairement à ce que vous dites, je ne suis pas sûr que ça tienne la une matin. Non, je crois que ça va rentrer un peu dans les faits. Ils partiront, mais il y aura une période de transition, donc personne ne va remarquer quoi que ce soit. Et là, ça va devenir des négociations commerciales un peu boring. Donc là, tout d'un coup, ça fait plouf.
Ouais. On sait qu'il y a une fracture sociologique entre les pros et les anti-Brexit. Les pro-Brexit étaient plus âgés, ils vivaient plutôt dans les campagnes, ils étaient moins éduqués, ils étaient moins aisés. Est-ce que ça se traduit également dans les médias, dans les radios, dans les télés, dans la presse?
Quoi, dans les journalistes, vous voulez dire?
Non, dans ce qu'on lit.
Donc ce qu'on dit, oui, parce que les gens qui votent Brexit achètent les journaux comme The Telegraph, The Express, The Daily Mail, The Sun, je peux en citer encore d'autres. En fait, il y a très peu de journaux qui défendent la cause européenne. The Guardian, The Independent, ce sont pratiquement les deux seuls, et The Financial Times aussi. Sinon, tout le reste de la presse a battu campagne contre l'Union européenne.
Ouais, et vous avez raconté dans votre livre les fake news les plus incroyables qu'avait raconté Boris Johnson, je veux finir avec ça. Il avait raconté que l'Europe avait inventé une taille réglementaire pour les préservatifs.
Ouais.
Quoi d'autre ?
Oh bah, son truc préféré, sur le degré de courbature sur des bananes.
La courbure des bananes.
Ça a obsédé les Britanniques. Et vous demandez à certains Britanniques pourquoi vous avez voté pour quitter l'Union européenne. Et je vous promets, ils vous disent, on va pouvoir retrouver des bananes avec un degré de courbature normal et impérial et britannique.
C'est très très rare, mais c'est aujourd'hui ça m'arrive. Je vous reprends sur votre français, on dit pas la courbature, on dit la courbure.
Ah oui,
la courbature, c'est quand on a mal au dos.
J'ai mal au dos, c'est pour ça.
Vous avez dit une fois, Alex Taylor, sur ma dernière question, je suis incapable de discuter avec un Brexiteur. Est-ce que c'est toujours le cas maintenant?
Très franchement, moi je vis à Paris, hein, donc trouver des Brexiteurs, je veux dire, ils ne vivent pas en France, donc il y en a très peu, et je rentre peut-être une fois, je viens de rentrer en Grande-Bretagne pour Christmas, c'est le truc qui revient. Très franchement, ça a complètement divisé le pays, c'est un truc d'identité, et les gens se sont rendus compte qu'en fait ils sont soit pour, soit contre, et c'est vraiment profond. J'ai beaucoup de mal, ce sont des gens qui m'ont enlevé, sans que j'ai mon mot à dire, mes droits, mes certitudes sur le fait de pouvoir rester là où je vis depuis 40 ans, mes droits de travail, surtout mon identité européenne. Je n'ai jamais vu autant de gens brandir fièrement un drapeau européen. Vous voulez savoir où ?
Dites.
À Londres. Quand il y avait 1 million de personnes, il faut peut-être enlever des choses à des gens pour qu'ils réagissent. Je suis allé couvrir cette manifestation pour un deuxième référendum qui a foiré, mais il y avait 1 million, surtout des jeunes, avec des drapeaux européens. Où est-ce que vous avez vu ça ailleurs qu'en Europe? C'est au moment où tout d'un coup on vous prend cette identité européenne qu'on ignore et qu'on, qui ne fait pas grand-chose dans la vie de tous les jours, mais quand on vous le prend, là, on descend dans la rue et les gens se sont rendus compte, pas en notre nom, nous sommes fiers d'être européens. Et il y en a beaucoup, toujours plus de la moitié selon tous les sondages britanniques.
Merci beaucoup Alex Taylor. Je rappelle Brexit, l'autopsie d'une illusion. C'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Ça se trouve toujours dans les bonnes librairies et puis on peut l'acheter par correspondance, notamment sur Fnac.com. Je vais citer un site français pour une fois qui paye ses impôts en France. Et puis prenez soin. Merci d'avoir été en direct avec nous un matin, début janvier, et prenez soin de vos courbatures.